Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média. Au menu, vous le savez, médias et culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture tiennent nos indispensables du jour. Une série hors norme sur Netflix et de la bonne cuisine anti-gaspi avec Laurent Mariotte. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et pour évidemment podcaster l'émission ou le morceau qui vous manque sur Europe1.fr. Notre info média, c'est Enquête exclusive sur M6 qui consacre 3 dimanches de suite à des enquêtes sur l'Amérique à 3 semaines des élections cruciales. Nous serons avec Bernard de la Villardière. Puis nos invités, Petit meurtre d'Agatha Christie. C'est une série policière française qui cartonne sur France 2 depuis sa création en 2009. Et la saison 2 se termine ce soir. C'est une drôle de saison 2. 27 épisodes, elle aura duré 7 ans. On sera avec la comédienne emblématique Elodie Frank et la productrice Sophie Reville. Enfin, Zep, le créateur de Titeuf, 19 ans après, il ressort le guide du zizi sexuel qui s'est déjà vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires dans le monde et que même le président Jair Bolsonaro a voulu interdire. Oui, parce qu'il est aussi publié au Brésil. Entre-temps, le monde a changé. On va vous le raconter. Et il y aura en prime son portrait inattendu, celui de Zep, pas celui de Bolsonaro. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles.
TF1 ressort les masques, Mélenchon plante France 2, Salto se dévoile, Ferroni fait ses premiers pas et le couvre-feu rebat les cartes.
Mais évidemment, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
TF1 s'est hissé en tête des audiences avec le final d'Infidèle, saison 2. La série avec Claire Keim a fédéré en moyenne 3,3 millions de téléspectateurs pour 17,1% de part d'audience. Ça reste faible, mais c'est en hausse sur une semaine. M6 a pris la deuxième position avec sa série américaine 911. En moyenne, les 2 épisodes inédits ont été suivis par 2,7 millions de personnes, soit 12,6% du public. M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 23%. C'est 3 points de plus que TF1. Enfin, France 3 suit avec du cinéma. 2,4 millions de personnes ont découvert ou redécouvert Un monde parfait avec Kevin Costner, soit 11,7% du public.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec le lapin posé par Jean-Luc Mélenchon à France 2.
Hier, le leader de la France insoumise était annoncé dans l'émission Vous avez la parole. Léa Salamé et Thomas Soto avaient installé le plateau de leur émission à Marseille pour interroger le ministre de la Santé, Olivier Véran, et le député des Bouches-du-Rhône devait faire partie des intervenants du débat. Sauf qu'un peu avant 20h, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il ne participerait pas à l'émission suite à un changement dans son organisation. Voilà ce qu'il a expliqué. Je devais faire l'ouverture pour répondre à Macron d'hier soir. Un autre déroulement s'est mis en place en dernière minute. France 2 dit que c'est à la demande du ministre Véran, je ne le crois pas. C'est le résultat de la pagaille et des mauvaises pratiques de cette équipe, dont tous les politiques invités se sont plaints. Les émissions politiques doivent respecter leurs invités. Sur le service public, les opposants aussi ont des droits.
Oh, dis donc, quelle diatribe ! Qu'a répondu France 2 ?
Alors la réponse s'est faite en plateau par Léa Salamé et Thomas Soto. Au moment où Jean-Luc Mélenchon aurait dû être en plateau, ils ont expliqué son absence.
Il aurait dû s'installer ici, Jean-Luc Mélenchon, être notre invité, répondre à nos questions. Mais il y a un peu plus d'une heure, le leader de la France insoumise a exigé, Monsieur Véran, que vous quittiez le plateau pour intervenir, car il ne voulait pas débattre avec lui. C'est une condition dont il n'a jamais été question. On avait établi des règles très claires avec lui. Il est évident que nous gardons la maîtrise éditoriale de l'émission. Nous n'avons donc pas accédé à sa demande. C'est dommage parce qu'il était venu exprès, il n'était pas à Marseille, il est député d'ici, il doit être à quelques centaines de mètres d'ici. Mais voilà, c'est ainsi. C'est la raison pour laquelle vous n'entendrez pas Jean-Luc Mélenchon. Nous le regrettons, mais c'est son choix.
Voilà, 2 versions différentes. En réponse, du coup, à ces propos de Thomas Soto, sur Twitter, le leader de la France insoumise n'a pas mâché ses mots. Salamé et Soto sont des menteurs. Ils ne maîtrisent pas leur ligne éditoriale. C'est juste le chaos. Ce sont de mornes passe-plats et l'audience nulle prouve l'échec. À quand une vraie émission politique sur le PAF ? Le secteur privé devrait se lancer. On dirait presque un tweet de Donald Trump.
C'est désormais officiel. Le service de streaming français Salto sera lancé mardi prochain.
Alors, la date avait déjà fuité en début de semaine, je vous en parlais avant-hier, mais la conférence de presse organisée hier n'a pas servi qu'à annoncer la date du lancement de Salto. On a aussi et surtout découvert les tarifs de lancement de cette plateforme de vidéos à la demande Made in France, imaginée par les groupes TF1, M6 et France Télévisions. Au total, il y aura 3 offres. L'offre solo pour 6,99€ par mois, qui permettra d'accéder à toute l'offre de Salto sur un seul écran à la fois. L'offre duo pour 9,99€ par mois avec 2 écrans. Et l'offre tribu à 12,99€, qui permettra à 4 personnes du même foyer d'accéder à Salto. Si simultanément.
Voilà pour les prix. On a également découvert le catalogue de Salto.
Alors, il y aura de la fiction française, mais pas seulement, des séries étrangères inédites, les nouvelles saisons de séries pas encore programmées en France et proposées 24 heures après leur diffusion, comme Manifest ou Fargo, et aussi des documentaires et des films cultes. Mais l'élément sans doute le plus attractif de l'offre de Salto, c'est la capacité de découvrir en avant-première des épisodes de séries ou d'émissions avant leur diffusion. Les fans de Demain nous appartient ou Scènes de ménage, par exemple, auront ainsi accès à leur série préférée avec 2 jours d'avance sur la diffusion linéaire. Et les accros à L'amour est dans le pré pourront également prendre un peu d'avance sur le rythme d'M6.
Et puis, coup de pouce involontaire de l'actu à Salto, le couvre-feu. Demain, TF1 lance la 2e saison de Masked Singer.
Et bien justement, TF1 doit se frotter les mains suite à l'annonce de ce couvre-feu. Il y aura sans doute plus de monde que d'habitude, ouais, ce soir devant Koh-Lanta, mais aussi demain pour le lancement de Masked Singer. La Une compte beaucoup sur la 2e saison de son concours de chant masqué, qui est vraiment toujours d'actualité. À l'animation, Camille Combal toujours, et du côté des enquêteurs, Angoune, Jarry, Alessandra Sublet et Kev Adams remplissent. Mais la chaîne promet des nouveautés afin de surprendre le public, mais aussi les enquêteurs. Rémi Faure, directeur des programmes de flux de TF1, en a dévoilé quelques-unes à Louise Bernard.
On aura un double candidat, qui est un duo, soit à la ville, soit à la scène, qui peut être un couple, qui peut être une même famille, qui peut être deux artistes qu'on connaît ensemble, comme étant un binôme, et qui vont participer en tant que les perroquets, et qui seront éliminés et démasqués ensemble, évidemment. La seconde grosse nouveauté, c'est que dès le second prime time, on aura la venue d'une star internationale, qui viendra le temps d'une soirée, qui se démasquera à la fin de la soirée, donc le public et les enquêteurs n'auront qu'une soirée d'indices et une prestation et deux magnétos pour se faire une idée. Et la troisième nouveauté, c'est un nouveau personnage qui arrivera un peu plus tard, qui est le corbeau, qui est un personnage qui ne se démasquera pas, lui, qui connaît les secrets et qui va venir en divulguer un certain nombre au fil des soirées, à partir de la troisième soirée et jusqu'au bout.
TF1 a également beaucoup travaillé sur les mises en scène avec plus de technologie, des écrans au sol, de la 3D et du trompe-l'œil. Et les enquêtes seront rendues un peu plus simples, comme nous l'a révélé Alessandra Sublet. C'est l'un des ajustements qui fait que cette 2e saison est meilleure que la première, selon elle.
T'as moins d'indices trafiqués dans les magnétos, c'est-à-dire la plupart des choses que tu vas voir sont des choses pour le coup concrètes. La deuxième chose, c'est la mécanique, c'est de faire sortir deux costumes par prime, forcément, enfin deux célébrités par prime, ça change tout, parce que t'as une accélération du casting quand même, donc tu t'ennuies beaucoup moins, tu vois, admettons que toi t'es deviné très vite, t'as quand même le deuxième derrière. Et l'autre chose, c'est que ce prime avec la star internationale, ça apporte un truc qui fait que t'as vraiment envie d'aller au bout pour voir.
Masked Singer fait donc son retour demain à 21h05 sur TF1. Pour rappel, le lancement de la saison 1 avait fait un carton avec 6,6 millions de téléspectateurs et quasiment 50% de part d'audience sur les femmes de moins de 50 ans.
La nouvelle émission de Laurent Ruquier doit s'adapter au couvre-feu.
On en a parlé à la rentrée, l'animateur a lancé un nouveau talk show qui est baptisé On est en direct. Il est diffusé tous les samedis soirs sur France 2, dans la case de son ancienne émission On n'est pas couché. Et comme son titre l'indique, l'une de ses spécificités est d'être diffusé en direct. Mais à partir de minuit ce soir, en Île-de-France et dans 8 métropoles en alerte maximale, vous le savez, il sera interdit de se déplacer après 21h. Impossible donc pour Laurent Ruquier de continuer à enregistrer dans ces conditions. Dès demain, il sera donc aux commandes de...
Vous voulez que je le dise ? On est presque en direct.
Voilà,
Nous, on est en direct.
Nous, on est en direct.
C'est pour ça qu'il y a des incidents parfois.
Si
tant mieux.
Si on pouvait couper, ce serait chouette.
Mais non, c'est la joie du direct. Justement, nous, on est en direct et l'émission de Ruquier s'appellera...
Voilà, on est presque en direct et elle sera mise en boîte dans l'après-midi.
Est-ce que c'est la seule émission de cette situation ?
Non, forcément, vous vous doutez bien. Alors, ouais. Cyril Hanouna, par exemple, il a décidé de faire pareil avec Touche pas à mon poste, qui se termine généralement à 21h15. TPMP ne sera donc plus en direct, sinon il aurait fallu se passer de public. Le talk show sera désormais enregistré 45 minutes plus tôt, dans les conditions du direct, évidemment. Le tournage se terminera à 20h30 pour permettre à ses spectateurs de rentrer chez eux. Le jeu à prendre ou à laisser, normalement diffusé en direct juste avant Touche pas mon poste, sera pour sa part enregistré dans l'après-midi. Autre exemple, les enregistrements de La France a un incroyable talent qui ont généralement lieu en soirée seront eux aussi avancés pour se terminer avant 21h.
Ce soir, 22h40, Teva lance une nouvelle émission qui s'appelle Piquante, Piquante au pluriel.
C'est un talk show animé par Nicole Ferroni. L'humoriste sera entouré d'autres humoristes femmes pour accueillir une personnalité et discuter avec elle de son actualité mais aussi de l'actualité au sens large. Pour la première, c'est Thomas Dutronc qui se prêtera à l'exercice. Autour de la table pour l'interroger, Constance, déjà auteur du programme court Constance ou la gueule de l'emploi sur Teva, mais aussi Elodie Pou, Alexandra Pizzagalli ou Laura Domanche, pour ne citer qu'elle. Au programme, des billets d'humeur, des sketchs, mais aussi des caméras cachées. Teva promet du rire, du caractère et zéro tabou. Alors des talk-shows, il y en a déjà une ribambelle à l'heure actuelle à la télévision. Nicole Ferroni a expliqué à Louise Bernard comment Piquante allait se distinguer de ses petits concurrents.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, chacune des chroniqueuses a vraiment son domaine de prédilection. Voilà, Christine Mérou va s'occuper de la politique. Alexandra Pizzagalli, elle fait plutôt la partie psychologie. Ou Constance, elle va être sur travailler sur un personnage qui est vraiment emblématique de l'actualité de la semaine. Donc en fait, normalement, dans cette émission-là, on va essayer d'aborder l'actualité sous plusieurs angles en parallèle. Et évidemment, bah, comme on est toutes des humoristes, je pense que le public s'attend à ce qu'on ne soit pas juste dans le fait d'évoquer l'actualité, mais qu'on en donne un regard qui soit un peu taquin, quoi.
Alors, Piquante va également se distinguer par son animatrice, Nicole Ferroni. Vous le savez, elle est humoriste, elle n'a aucune expérience aux commandes d'une émission. On lui a demandé ce qui lui avait poussé à accepter cette proposition.
Moi, normalement, je ne suis pas du tout capitaine. En général, dans mon travail, que ce soit quand je fais des chroniques, quand je monte sur scène, j'ai plutôt l'habitude de remplir un cadre plutôt que de définir le cadre des autres. Et donc, je trouve ça assez audacieux de me proposer à moi, qui n'ai jamais fait ce travail, même pas un tout petit peu, même pas sur un petit format, de me proposer d'emblée d'animer une émission en deuxième partie de soirée. Je me suis dit, bon, d'accord. Enfin, donc, j'étais étonnée qu'on me le propose. Et en même temps, comme je trouve ça courageux qu'on me le propose, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas accepter. Parce qu'avec avec un peu de chance, ça va me plaire.
Eh bien, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, Charles Decamp. On vous retrouve lundi pour un nouveau Journal des médias. Et on a hâte de voir les audiences avec le couvre-feu à partir de demain soir. Bon week-end.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Dans moins de 3 semaines, les États-Unis vont élire un nouveau président ou alors rééliront Donald Trump, un pays au bord de la dépression. À la crise sanitaire, qui a déjà fait plus de 200 000 morts, s'ajoute une crise financière et sociale. Personne n'est épargné. En Californie, l'État le plus riche des États-Unis, en Californie ont lieu des distributions alimentaires géantes dans lesquelles on voit des Américains au volant de voitures de luxe venus chercher de quoi se nourrir. Et les plus pauvres, eux, de leur côté, sont expulsés de chez eux. Bonjour Bernard de la Villardière.
Bonjour.
Vous présentez, vous incarnez le magazine Enquête exclusive sur M6 qui consacre ses 3 prochaines émissions à l'élection américaine. C'est une première.
C'est une première. C'est la première fois qu'on fait 3 émissions sur un même pays de suite.
Pourquoi ce choix ? Est-ce que l'Amérique et l'actualité américaine éclipsent à ce point tout ce qui se passe dans le monde ?
Non, mais en fait, on a trouvé intéressant de faire une thématique sur 3 numéros. C'est vrai que il faut dire qu'historiquement, Enquête exclusive tourne pas mal aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'y aller 4-5 fois par an depuis une quinzaine d'années. Donc on connaît beaucoup bien ce pays. Et il se trouve aussi que c'est très facile d'y travailler. Parce qu'une fois qu'on a les autorisations et qu'on a la confiance des gens, ils ont un sens de la télé quand même invraisemblable. Et puis c'est vrai qu'on y trouve, c'est un pays où on trouve le pire et le meilleur.
Ouais.
En l'occurrence là, on a suivi ces Américains de toutes conditions qui se retrouvent dans une extrême pauvreté et précarité, souvent sans domicile parce qu'ils ont été chassés de chez eux. Vous savez, c'est assez brutal là-bas. Quand vous ne payez pas la maison, vous ne remboursez pas le crédit au bout d'un mois, ben, vous êtes expulsé.
On va parler du fond des sujets, mais d'abord ces 3 semaines, c'est très très surprenant. Est-ce que Enquête exclusive existe depuis combien de temps ?
Depuis une quinzaine d'années, on a été créé en 2005.
C'est la première fois, c'est pour la première élection américaine que vous le faites 3 fois de suite. Elle est vraiment particulière, cette élection ?
Oui, 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 bien sûr, parce que l'Amérique est à la croisée des chemins. Je me souviens d'avoir couvert la campagne de Trump en 2016. J'avais été frappé d'ailleurs par cette espèce de fêlure dans le cœur des Américains, où on avait l'impression que, comme ils sentaient que leur pays n'était plus la première grande puissance au monde, voilà, ils ont, pour la plupart d'entre eux, voté Trump. Enfin bon, voilà. C'est vrai qu'il y avait une dimension narcissique et blessure qui faisait qu'on avait envie d'avoir l'Amérique great again.
Vous étiez allé où ? Vous aviez enquêté où ?
On avait été en Caroline du Nord notamment, mais dans plusieurs États américains.
C'était pour faire un petit compliment, puisque je me souviens qu'à l'époque, la plupart des télévisions françaises étaient toutes allées à New York et à Washington, et n'avaient pas vu venir l'élection de Trump, qui s'est jouée évidemment dans les États ruraux. Ils n'avaient pas vu le coup venir.
Absolument, et moi j'avais été frappé par le fait que les électeurs de Trump, ceux qui se massaient dans ces meetings, venaient d'être de toutes conditions. Il n'y avait pas que des... Redneck, comme on dit.
Alors, ce dimanche, 23h10, un documentaire consacré à l'Amérique au bord de la dépression. C'est signé Christelle Bernot et Mathieu Faroux. De quelle Amérique parle-t-on?
Mathieu Faroux.
Faroux, pardonnez-moi.
Ils sont tous les deux, ils vivent tous les deux aux États-Unis et ils connaissent très bien
ce pays,
bien évidemment.
J'ai dit Faroux. C'était un hommage inconscient à Bernard Faroux, le réalisateur. Pardonnez-moi. Il y a bien écrit Mathieu Faroux sur ma note. De quelle Amérique parle-t-on? Est-ce que tous les Américains sont touchés?
Bah, ils ont tourné au Texas, en Floride, en Californie notamment, et je peux vous confirmer que tous les Américains sont touchés. Encore une fois, de toutes conditions, je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce qui m'épate, c'est que tous ces Américains, quand on les interroge, ils désignent personne comme étant responsable de la situation dans laquelle ils sont. Pas de bouc émissaire.
Ah bon ?
Tout repose sur moi.
Mais donc, attendez,
je compte rebondir. Je vais repartir de l'avant. Donc on n'accuse pas le président, on n'accuse pas l'administration, on n'accuse pas l'État, on n'accuse pas les riches. C'est une vraie divergence entre cette mentalité américaine, ces réactions face à la pauvreté et aux difficultés de la vie, et la mentalité française où il y a toujours quelqu'un qui est coupable.
Nous on voit ici à la télévision française et à la radio, on entend les leaders démocrates, ils accusent tous Trump comme un seul homme. Plus d'emplois. Et bientôt plus de logements, c'est la spirale infernale. Il y a 40 millions de personnes aux États-Unis qui ont déjà perdu leur emploi à la suite du drame du coronavirus. Vous êtes allé à Columbus dans l'Ohio, il y a un tribunal qui est chargé d'étudier les cas de demande d'expulsion et ce tribunal est débordé. Extrait.
100 locataires par jour sont convoqués pour être expulsés. Tonica Mills attend de passer devant le juge. Cette mère de famille doit 6 mois de loyer à son propriétaire, soit près de 5000 euros.
Je travaillais comme conseillère de clientèle. Quand la pandémie a frappé, le boulot s'est arrêté. Pendant ces 4 derniers mois, j'ai appelé l'agence pour l'emploi tous les jours pour obtenir de l'aide. Je déteste me retrouver dans cette situation. C'est horrible.
Dans quelques minutes, Tonica devra plaider sa cause dans la salle d'audience. Sur le bureau du magistrat Jane Edwards, la pile de dossiers s'accumule. Il n'a que quelques minutes pour juger chaque cas.
Est-il exact que le locataire n'a pas payé le loyer depuis le 9 juin dernier ?
Oui.
Et est-il exact que le locataire vit toujours à cette adresse ? Je prononce l'expulsion.
Le chiffre que vous donnez dans ce reportage est ahurissant. 40 millions de locataires menacés d'expulsion d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils ne vont pas être sur les routes comme en 29 ?
Ils sont sur les parkings, ils sont dans la rue. Je reviens de New York, j'étais la semaine dernière à New York. J'ai jamais vu autant de SDF dans les rues de New York. Il y en a aussi dans les rues de San Francisco. Donc il y a une paupérisation que l'on voit grandir à vue d'œil. Washington est devenue une ville fantôme. C'était déjà pas une ville très dynamique et agitée et vivante. Mais là, c'est encore pire. Et même New York est touchée. Enfin, ce qui est incroyable, c'est quand on se balade dans cette grande ville, c'est les immeubles de bureaux, les gratte-ciel complètement vides. Il est 10h du matin, il n'y a personne. Parce qu'il y a le télétravail, les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, les restaurants, la plupart des restaurants sont fermés. Ou alors quand ils vous accueillent, c'est dehors, dans la terrasse, sur la terrasse. Il faut savoir qu'il y a 217 000 Américains qui sont morts du Covid.
217 000. Bernard Lavillardière a le dernier chiffre. Les 3 prochains numéros d'enquête exclusive sur M6 seront consacrés aux élections présidentielles. Il reste avec nous à tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Bernard de Lavillardière, journaliste et présentateur emblématique d'enquête exclusive, dont les 3 prochains numéros sont consacrés à la présidentielle américaine. Ce dimanche à 23h10, l'Amérique au bord de la dépression, on vient d'en parler. Autre sujet ensuite, la semaine prochaine, Le Monde selon Trump, signé William Carell, réalisateur de nombreux docs sur la politique américaine, Le Monde selon Bush, Les Hommes de la Maison Blanche, Les Guerres Secrètes de la CIA, Barack Obama, Hillary Clinton, La Femme à Abattre. Un sacré pédigré, ce William Carell. Il le voit comment, Le Monde selon Trump ?
Le Monde selon Trump, d'abord, c'est un style de pouvoir, c'est une manière de s'adresser aux foules, aux Américains, c'est l'utilisation des tweets. C'est une complète impudeur, c'est une impertinence et une insolence invraisemblable. C'est un manque de vocabulaire et en même temps une vulgarité quand même. Et enfin bon, voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin, chacun comprendra, parce qu'on a pu l'analyser au cours de ces 4 années de présidence. Mais en même temps, un toupet, un culot, et un vrai art de la communication.
Alors on peut se demander...
D'ailleurs, on l'a vérifié récemment, quand il a été atteint du Covid-19.
Ah bah, évidemment.
Enfin, voilà, où il était face à ses contradictions. Il a sous-estimé largement l'épidémie, il en est victime. Il en revient au bout de 2 jours. J'étais devant le Walter Reed Hospital, l'hôpital militaire de Washington, où il y avait les pro-Trump qui étaient là, rassemblés, qui le soutenaient, etc. C'était extraordinaire, jour et nuit. Il y avait des défilés de voitures. Et il n'y avait pas que des Américains blancs là-dedans. Il y avait aussi des Noirs américains, parce qu'il faut savoir que 20% des Noirs américains votent Trump.
On va parler parce qu'il y a un sujet, il y a un sujet sur les ligues noires américaines.
Il y a beaucoup de migrants récents qui soutiennent Trump parce qu'ils n'ont pas envie que le rêve américain, ils n'ont pas envie de le partager avec d'autres.
Alors la question qu'on se pose.
Il revient du. Il sort de l'hôpital au bout de 2 jours, il vint le virus, et puis il se présente devant ses électeurs, devant l'Amérique entière, en disant « Vous voyez, je suis parti au front, et j'ai vaincu le Covid-19 !» Extraordinaire.
Avec des médicaments dont on ne sait pas trop ce que ça va devenir.
Alors, peut-être des médicaments, effectivement.
On se demande ce qu'il a dans la tête, et William Carell a interrogé des psychologues, des psychiatres qui ont étudié la personnalité de Trump. Que disent-ils ?
Ah ben ils disent que effectivement c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que voilà
ils disent qu'il est fou, ils disent que c'est calculé,
un type qui est sans limite. Difficile à dire.
Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce qu'il croit lui-même à ses provocations?
Oui, je pense. Ah oui, je pense. Oui, il est très premier degré, mais comme peuvent l'être parfois les Américains, d'ailleurs.
Vous consacrez un troisième numéro, ça sera le 1er novembre, et vous venez un petit peu d'effleurer le sujet, Bernard Lavillardière, consacré à la nouvelle élite noire. Qui est cette élite? Élite financière, élite intellectuelle?
Il y a une bourgeoisie noire, même si les inégalités persistent, hein, entre les noirs et les blancs notamment, mais aussi entre les blancs et les hispaniques. Panique aux États-Unis et la crise du Covid-19 l'a révélé d'autant plus. Il faut savoir qu'il y a certains États américains où la moitié des victimes du Covid-19 sont des Noirs, des Afro-Américains. Voilà, on s'est intéressé à cette bourgeoisie noire en sachant qu'au sein de cette bourgeoisie et ces millionnaires noirs, car il y en a de plus en plus, et fort heureusement, tant mieux d'ailleurs, eh bien, il y a aussi une nouvelle tendance, c'est le black business, c'est le buy black, c'est made and buy black. Ce sont des jeunes entrepreneurs américains, certains qui ont 27-28 ans d'ailleurs, comme celui qui a créé le Amazon noir, que l'on a suivi à Atlanta, et qui va jusqu'à fabriquer des produits de beauté, mais aussi des produits d'hygiène, pour dévolu uniquement au noir. C'est marqué d'ailleurs sur le... Alors que ce soit des dentifrices, que ce soit des bains de bouche, c'est des brosses à dents. Ouais. Alors ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est qu'à un moment, le reporter est avec lui dans son entrepôt, et il sort une brosse à dents made in black, ouais. Et en fait, on découvre qu'elle est fabriquée en Chine.
Alors, c'est pas facile de faire oublier sa couleur de peau, c'est ce que raconte dans le sujet Don Peebles et sa femme. Il est surnommé le Trump noir, c'est un homme d'affaires de 55 ans, il a fait fortune dans l'immobilier. Il pèse aujourd'hui 700 millions de dollars, donc on n'est pas très très loin du milliard, mais toutefois, les préjugés ont la vie dure.
Les Américains n'associent pas les Afro-Américains avec la richesse, car ils veulent des réponses simples. S'ils voient un riche athlète ou un riche artiste, ils sont plus à l'aise. Mais les gens ont moins l'habitude de voir un riche businessman noir. Rien de moi ne correspond aux stéréotypes auxquels l'Américain moyen s'attend.
An average American expects.
But they're lazy. Mais ils sont paresseux. C'est plus simple de dire « Oh, elle est blonde, c'est une poupée Barbie, mettons-la dans cette case. » Oh, il est afro-américain, il doit être un artiste, car ça, on a l'habitude. »
Quand on vous suit, on voit que l'image des Noirs qui est véhiculée par les médias américains, c'est soit des délinquants, ou des trafiquants de drogue, ou alors des sportifs, ou alors des rappeurs. Est-ce que l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche a changé beaucoup de choses ?
Pas suffisamment de mon point de vue. Obama n'a pas fait grand-chose finalement contre le racisme. Il aurait pu faire sans doute plus. En même temps, il avait le Congrès contre lui, c'était pas si évident. Mais c'est vrai que on se rend compte que l'épisode Obama, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas imprimé vraiment l'Amérique et les Américains en général.
On sait qu'il y a un vote noir, que les Noirs votent traditionnellement démocrate, mais c'est pas du tout 100%. Il y a plein de Noirs qui votent pour Trump.
Oui, il y en a, on estime à peu près 20%.
Qui sont-ils ?
Ce sont souvent des pauvres. Moi, j'ai été dans des foyers qui accueillent des SDF, etc. Enfin, il y a certains qui ont refusé de me dire pour qui ils votaient, mais il y a certains qui votent Trump.
Et quel était leur argument ? Quand on leur disait que Trump était raciste, ils vous répondaient quoi ?
Bah, D'abord, je suis pas sûr qu'il soit raciste. Peut-être sans doute qu'il...
Non, je ne demandais pas votre avis à vous. Je demandais
l'avis
des Afro-Américains.
Ils n'en sont pas forcément persuadés, en tout cas pour ceux qui votent Trump, forcément.
On parle beaucoup de l'Amérique, il nous reste une minute pour dire qu'Enquête exclusive, c'est très tourné vers l'étranger comme programme. Les prochains voyages, les prochaines destinations, ce sera où ?
Notamment un film sur la République centrafricaine qu'on a tourné il y a quelques mois. Et puis, je vais partir bientôt au Mexique. Je vais partir au Pakistan, tout ça, avant Noël.
Ouais.
Oui, c'est une émission dont 3 sujets sur 5 sont tournés vers l'international, ce qui est très bien. Et moi, je suis ravi de travailler M6 sur une chaîne qui nous fait confiance et qui fait que cette émission continue d'être un vrai succès. Et il faut savoir que le cœur des auditeurs de Enquête exclusive, des téléspectateurs d'Enquête exclusive, la cible, c'est 15-35 ans.
Ouais.
Tant et si bien que la chaîne me demande parfois d'essayer d'intéresser les plus de 50 ans, ce qui m'amuse parce que j'ai dépassé la soixantaine.
Ouais.
Donc il va falloir que je m'applique.
C'est quoi un sujet pour les... Ça sera ma dernière question. C'est quoi un sujet pour les plus de 50 ans?
Je ne sais pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut essayer d'être programmé peut-être un peu plus tôt parce que plus de 50 ans, après 23h15, ils dorment.
Et encore 23h15, c'était avant le couvre-feu. Merci Bernard Davillardière. Donc je le rappelle, les 3 prochains numéros d'Enquête exclusive consacrée à la présidentielle américaine, ce dimanche à 23h10. L'Amérique au bord de la dépression. Dimanche 25, le monde selon Trump. Et le 1er novembre, USA, la nouvelle élite noire. Merci d'avoir été avec nous dans un instant.
Merci à vous.
On va rester. Ah non, pas du tout. On sera avec la comédienne Elodie Frank et la productrice Sophie Reville. C'est pas du tout sur M6 que ça se passe, mais sur la 2. C'est le final ce soir, très surprenant, de la saison 2 des petits meurtres d'Agatha Christie. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Bondel.
Petit meurtre, grand destin, avait titré Le Figaro il y a 2 ans. Les petits meurtres d'Agatha Christie est une série policière française, comme son nom ne l'indique pas, qui cartonne sur France 2 depuis sa création en 2009. Oui, sinon on arrête les séries quand ça marche pas. Et donc la saison 2 se termine ce soir, ce qui est assez étrange parce qu'elle se termine après 27 épisodes, mais elle aura duré 7 ans. Et il y aura une saison 3, on va en reparler. Bonjour Elodie Frank.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et vous incarnez Marlène, l'un des 3 personnages clés de la série. Bonsoir Sophie Reville.
Bonjour.
Vous êtes l'heureuse... J'ai dit bonsoir, bonjour Sophie Reville, vous êtes l'heureuse productrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie, qu'on peut voir également dans les pays francophones, Belgique, Canada, Suisse, normal, mais également au Brésil, en Espagne, en Finlande, Allemagne, Italie, même aux États-Unis, en Australie. C'est quoi
60
le pitch? 60 pays. C'est quoi le pitch, le principe de la série?
Alors, on est en fait la seule société de production dans le monde à avoir obtenu du petit-fils et de l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie d'enterrer en quelque sorte Hercule Poirot et Miss Marple. C'est-à-dire qu'on adapte les romans d'Agatha Christie avec nos propres héros français. Donc dans la saison 2, on est en 1962. Et ce qu'il faut dire avant tout, c'est que c'est de la comédie. Il y a un commissaire très autoritaire et très macho, qui est le commissaire Lawrence. Il est houspillé en permanence par une jeune journaliste féministe, qui est Alice Avril, interprétée par Blandine Bellavoir.
Et là, je vous interromps, Elodie Frank. Vous, votre personnage de Marlène, c'est qui ?
C'est la secrétaire du commissaire, qui est une ouvraie... les portes, et ouais. Puis qui en a fait un peu plus, elle les aide avec son bon sens et elle ajoute une touche de glamour et d'humour aux enquêtes éventuellement.
Ouais, j'aime bien ce éventuellement, parce qu'au départ vous aviez un rôle annexe, puis c'est devenu un trio. J'ai retrouvé ce que Télérama avait écrit sur vous en 2014, démarche hésitante de pintade manucurée, répartie azimutée, son irruption dans les adaptations excentriques d'Agatha Christie fait des étincelles. Ouais. Et c'est une secrétaire, elle ne s'est même pas tapée à la machine.
Non,
on ne sait pas pourquoi elle est
non,
là.
Non, non, elle travaille moins pour gagner rien, mais... elle est là, elle est très 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 importante.
Alors à l'image, c'est un peu Mad Men sans les clopes, 27 épisodes donc, et le 27e épisode ce soir se termine en beauté, car c'est un hommage un peu aux comédies musicales de Jacques Demy à La La Land, bande annonce.
C'est dans la mise qu'on reconnaît les faux amis et puis les vrais.
Chanter, danser et résoudre une énigme, ce n'est pas forcément incompatible.
Oh, je vous jure que je ne l'ai pas tué.
Elle est dans le pétrin jusqu'au cou.
Et Avril est née dans le pétrin. À croire que le mot pétrin a été inventé pour elle.
On va tous finir en prison.
Non, allons, calmez-vous, Marlène.
Les embrouilles, je les renifle à 20 pas. L'affaire se corse, les taux se resserrent.
Après 10 ans d'hémoglobine et d'humour, Avril, le commissaire Lawrence et Marlène nous quittent en chanson.
Elodie Frank, à la base, vous-même et les autres comédiens, vous saviez chanter, vous saviez danser ?
Non.
Enfin, j'ai fait de la danse, un peu comme toutes les petites filles.
Ouais, jusqu'à 6 ans.
Voilà, et je chante éventuellement au karaoké les chanteuses sans voix de Gainsbourg. Mais non, on a bossé, quoi.
C'est-à-dire ?
Ben, on a bossé avec une chorégraphe, Corinne Devaux, avec Moira Conrad, une coach de voix, pendant le tournage des deux précédents, puisqu'on en a enchaîné 3. Donc, on a eu une dizaine de cours de danse, seul puis ensemble. Enfin bon, ça a été du boulot, beaucoup de boulot.
Alors, je dois dire que le final est assez spectaculaire. Il y a vraiment du monde à l'écran, une cinquantaine de personnes. Ce qui est amusant, c'est que chaque personnage dans la chanson finale, je ne veux pas tout spoiler, raconte tout ce qui lui est arrivé à l'antenne pendant les 27 épisodes. Par exemple, qu'est-ce qui...
Ouais, on avait envie de faire un cadeau à nos fans. On a quand même 5,5 millions de fans, hein, très fidèles. Donc, par exemple, le commissaire Laurence a assisté à son propre enterrement. Il s'est déguisé en femme, la fameuse Brigitte que tous les femmes connaissent, que tous les fans connaissent. Marlène a failli épouser quand même le sosie de Laurence. Donc, en fait, c'est vrai qu'on rappelle dans cet épisode beaucoup de choses très drôles qui sont arrivées à nos héros.
Sophie Réville, vous avez dit une fois aux Parisiens, vous avez dit on cherche à bousculer nos personnages. En quoi l'histoire va les transformer, les emmener ailleurs? Nos comédiens inspirent les dialogues. Ils peuvent tout faire sans être ridicules. Par exemple, Elodie Frank, qu'est-ce qu'on vous a fait faire de pire, de ridicule, donc de mieux?
On m'a fait faire moi-même, j'ai dû faire ma propre sœur, qui était très différente. C'est pas vraiment ridicule, mais c'est très casse-gueule, parce qu'il faut y croire. C'est vrai qu'à chaque fois que je recevais un scénario, je me demandais dans quel bain on va la plonger.
Ouais.
Et on avait vraiment, pendant 27 épisodes, on était surpris par tout ce qu'on pouvait lire et faire.
Par exemple, je me souviens qu'on t'a fait parler anglais, et parler anglais pour Marlène, c'était parler français en mettant l'accent anglais.
Ouais. Voilà.
Et ça c'est dans l'épisode de ce soir.
Ah oui.
Il se passe quoi? Un cadavre au petit déjeuner, c'est quoi l'intrigue, si vous arrivez à la résumer d'un mot?
Alors Alice Avril se réveille un matin avec un jeune homme assassiné, poignardé dans son lit.
Alice Avril, c'est la journaliste.
C'est la journaliste. La porte est fermée à clé, c'est un peu le mystère de la chambre jaune. Donc elle appelle sa meilleure amie Marlène, la secrétaire du commissaire, qui débarque. Ils appellent Laurence. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est le retour du premier commissaire de la première saison des Petits Meurtres, Antoine Duléry, le commissaire Larosière. Alors, c'est pas tout à fait lui, c'est son neveu qui vient au commissariat enquêter sur cette affaire. Donc, c'est un peu le duel entre la première saison et la deuxième saison, entre Laurence et La Rosière, Samuel Labarthe, Antoine Duléry.
Puisque vous en parlez, la première saison se déroulait dans les années 30, c'était le décor. Maintenant, c'est les années 50-60. Pourquoi vous avez upgradé? Pourquoi ce changement?
Parce que on aime créer des univers, on est des fous de décors, de brocantes, de vieilles voitures. C'est ce qu'aiment les gens aussi, c'est un voyage, les Petits Meurtres. On part dans un univers très beau, très cinématographique. Donc c'était découvrir une nouvelle époque. Et puis, maintenant, on va partir encore dans une nouvelle.
Justement, on va partir dans une nouvelle époque, mais ça ne sera pas dans 20 ans, ça sera dans quelques instants. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La vie continue, l'aventure nous appelle. Ah oui, vraiment, toutes les saisons sont belles. L'avenir est là au bout de la rue.
La vie continue, chante la troupe des Petits Meurtres d'Agatha Christie.
Faut bien
que ça continue. On va parler de ce que ça va devenir et ça sera sans vous, Elodie Frank. Juste un mot, vous adaptez les romans d'Agatha Christie, Sophie Réville, sauf les plus célèbres. Les gros romans emblématiques, Le Crime de l'Orient Express ou Mort sur le Nil.
Voilà, les héritiers ont gardé les droits. Hein. Et maintenant, il y a une telle confiance entre nous, une amitié, je peux dire, depuis 10 ans, qu'on a le droit d'adapter à la manière d'après l'œuvre, c'est-à-dire de ne même pas prendre un roman au départ.
Donc il n'y a pas
c'est
de roman,
ce qu'on a fait
pas
pour la
personnages.
Comédie musicale, par exemple.
Voilà,
on
pas
fait
de roman, pas de personnages. Voilà.
Ouais.
Elodie Frank, vous lisiez les romans quand un épisode était tiré d'un roman, vous alliez le lire
non.
Ou au contraire, surtout pas?
Surtout pas.
Voilà. Bim.
Je vais peut-être me mettre à les lire.
Parce que maintenant, ça va s'arrêter.
C'est
alors.
Fini.
Je l'ai dit, Sophie Réville, ce soir, c'est le 27e et dernier épisode de la saison 2. Pourquoi arrêter alors que ça cartonne? Vous allez passer à autre chose?
Bah, 27 films, c'est énorme. C'est des films d'une heure et demie. Hein. On leur a tout fait faire, je disais tout à l'heure. Les personnages ont été partout. En fait, on a senti avec les acteurs qu'on risquait de se répéter.
Ouais.
Et puis, les acteurs avaient envie de nouvelles aventures. C'est normal.
Attendez, vous avez dit, Télémagazine vous a posé la même question que moi, vous avez fait une toute autre réponse au sujet de votre trio d'acteurs. Je vous cite, vous avez dit, je ne savais plus quoi faire à leur personnage. Samuel avait envie d'autres aventures et Élodie et Blandine se trouvaient trop âgées pour incarner leur personnage.
Non, mais ça, c'est vraiment, déformé.
Vous avez vraiment dit ça?
Non, non,
je suis trop vieille pour jouer
bien
ça.
Elle vous a dit ça? Non,
et Blandine,
non.
Elle vous a vraiment dit ça?
Non, pas du tout. Non, non.
Ah bah alors,
non,
non,
j'ai parlé des
7
ans. Ouais, ouais, bah, déformation, hein, les journalistes écrivent un peu n'importe quoi.
Attention,
parfois.
Télémagazine, ça se trouve, ils ont la bande de ce que vous avez dit. Vous avez peut-être vraiment dit ça. Faites toujours attention.
Non, j'ai jamais dit ça.
Non, non, non. Non, non, pas du tout. En plus, Marlène, elle n'a pas d'âge. Je veux dire, elle est.
Elle a entre 20 et 65
ouais,
ans.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Non, non, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 7 ans, c'est normal qu'un acteur ait envie d'explorer d'autres choses. Moi, je trouve ça tout à fait
normal. On ne fait pas ce métier pour faire toujours le même personnage.
Bien sûr.
Mais...
Sauf que là, ça va continuer. Vous ne laissez pas tomber les petits meurtres d'Agatha Christie, mais ça passe dans les années 70.
Tout à fait.
C'est pour leur faire fumer des pétards. Non, mais je ne plaisante pas. C'est pour qu'ils aient un nouvel environnement.
Tout à fait, il y en a qui
fumeront des pétards. Qu'il y ait des pattes d'eph, qu'il y ait des vestes à franges et qui partent en Afghanistan dans un ashram.
De nouveau, recréer un univers. Bon, les années 70, dans la mode, dans la déco, c'est carrément contemporain, quoi, hein.
Ouais.
Et puis, c'est une époque passionnante. Vous savez, les petits meurtres, c'est une série féministe. Hein. Il y avait Alice Avril qui essayait de convaincre Marlène de sortir de son côté potiche. Et les années 70, c'est à la fois la libération de la femme, les mini-jupes, et en même temps, c'est le machisme triomphant. Et donc, on peut vraiment parler des relations hommes-femmes avec une loupe et avec beaucoup d'humour et de comédie. C'est notre force. Donc voilà pourquoi on a choisi les années 70.
Vous allez commencer à tourner quand? Ou est-ce que vous avez déjà commencé?
On a déjà tourné 2 épisodes cet été.
Ouais.
Et lundi, on démarre le tournage de 2 nouveaux épisodes dans les années 70.
Et dans quelle ville? Parce que là, c'était du côté de Lille. Ce sera dans quelle ville
à
le tournage
Lille,
maintenant?
À Lille, on a installé
donc, le sens de ma question, il n'y a pas de couvre-feu?
Alors, bien sûr qu'il y a un couvre-feu, mais nous...
Ah si, à Lille.
Alors...
Parce que vous étiez à Lens avant.
Non, on était à Tourcoing. On avait un studio à Tourcoing. On a construit là un studio à Lens. On tourne à Lille et dans toute la métropole lilloise.
Alors comment vous allez faire pour le couvre-feu ?
C'est vrai que nous, on considère qu'on ne se promène pas dans la rue quand on tourne la nuit. On travaille, hein, et on travaille dur. Donc quand le préfet l'allemand, effectivement, j'ai entendu qu'il allait interdire les tournages de nuit sur Paris. Je trouve que c'est n'importe quoi. Quand on tourne la nuit, en fait, c'est en extérieur. Hein. Donc, ouais. On est masqué, on applique les consignes de sécurité à la lettre. Donc, je ne comprends pas cette interdiction. Mais je crois que les producteurs sont en train de se battre.
Élodie Frenk, vous avez joué récemment dans un unitaire, un policier pour France 3, qui était le Pont du Diable, qui a cartonné.
Cartonné.
Vous avez les chiffres en tête?
Pas du tout. 6 millions ouais. Nouveau, à peu près.
J'en
rate peut-être quelques-uns. Non, moi, je tourne en zone verte, donc de toute façon, il n'y a pas de couvre-feu en ce moment.
Et vous tournez quoi en ce moment? Lancement, vous tournez
France 3, 6 x 52 en Bretagne, et un unitaire pour France 2 en Bourgogne.
Et quelle différence avec les petits meurtres?
Ah, beaucoup de différences.
Je vais vous dire, ce qui m'a fait marrer, c'est que vous avez dit, parce que j'ai rien compris ce que vous vouliez dire, vous avez dit, pour la première fois, je peux aller à la cantine.
Je peux aller à la cantine, j'ai dit ça?
Ouais.
Ah non, ça c'était pendant les petits meurtres quand je faisais Marlène en dépression nerveuse qui s'habillait plus. Parce que c'est vrai que pour rentrer à nouveau dans la jupe crayon après la cantine, c'est toujours un peu difficile. Donc je mangeais plusieurs fois par jour comme ça pour gérer l'estomac. Maintenant, oui, je peux aller à la cantine. Enfin, je vais toujours à la cantine, hein, je mange beaucoup. Mais non, ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent en fait. C'est les personnages, c'est...
Et Sophie Réville, quoi, vous avez d'autres projets ou vous êtes juste centrée sur les petits meurtres d'Agatha Christie?
Non, on démarre également lundi le tournage de L'amour flou, la série, qui est la suite du film de Romain de Boringer que j'ai produit, donc, qui est une série pour Canal+, de 9 fois 30 minutes, où on va retrouver la famille Boringer-Rebaud, et en guest Eric Caravaca et Monica Bellucci.
Merci beaucoup. Donc je le rappelle, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, c'est ce soir à 21h sur France 2, 27e et dernier épisode de la saison 2. Juste un mot, la semaine suivante, ils rattaquent avec des rediffs, vous le saviez ça, sur
tout
France 2
fait, tout hein à fait, tout à fait. Ouais. Ben, y a toujours nos rediffs cartonnent aussi. Les gens sont heureux de retrouver leurs héros, même dans des intrigues qu'ils ont déjà vues. Ouais.
Ça fait du bien, regarder ça ce soir.
Merci beaucoup Elodie Frenk, merci beaucoup
merci.
Sophie Réville. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chameroy pour son écran de veille, et puis un Suisse, le dessinateur Zep. Vous êtes Suissesse, Élodie Frenk.
Je l'aime.
Le créateur de Titeuf, il vient pour la nouvelle édition du guide du zizi sexuel. Pourquoi une nouvelle édition ? Parce que quand il l'a sorti en 2001, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'irruption des LGBT, il n'y avait pas MeToo. Et puis dans nos indispensables, une série révolutionnaire sur Netflix, et puis des recettes de cuisine, zéro gaspille, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.